Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit Pierre-Luc Rivet et on jase photo dans les égouts. Bonjour à tous, bienvenue au Photo Photo Podcast. Aujourd'hui à l'émission, on parle de drain avec Pierre-Luc Rivet. Pierre-Luc?
Salut, Jarold!
Comment ça va?
Ça va très bien, toi.
Écoute, je suis content de t'avoir aujourd'hui. On a un épisode aujourd'hui super intéressant. On va parler d'affaires vraiment cool avec toi. Mais avant d'aller trop loin, j'aimerais ça dans un premier temps que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas.
Bien sûr. Écoute, je m'appelle Pierre-Luc Rivet. Je suis technicien en mécanique de bâtiment. Donc, je travaille dans une firme d'ingénieurs depuis début des années 2000. Fait que ça fait presque 25 ans que je suis dans le domaine. Principalement, je travaille dans la conception, pas l'installation, mais vraiment la conception de réseaux de plomberie, drainage par gravité, des systèmes d'alimentation en eau, gaz naturel, donc tout ce qui est tuyauterie de bâtiment pour le confort, donc ventilation, etc.
Tu n'as pas commencé ta carrière parce que tu faisais du drain ou viceversa.
C'est ça, exact. C'est pas un qui a amené l'autre, mais peut-être qu'un a influencé l'autre et vice-versa. C'est un heureux concours de circonstances ou peut-être un appel du destin, si on veut. Je sais pas comment l'expliquer d'autre, mais c'est ça.
Mais comment c'est parti cette passion-là du drain? Parce qu'on va s'entendre, là. C'est pas le genre de truc que tu te lèves un matin et tu te dis, tiens, plutôt que d'aller photographier des oiseaux, je vais aller me promener dans un drain. Il y a quand même un cheminement qui fait que tu commences quelque part à un point A, puis ton point d'arrivée éventuel d'après avoir fait plein de zigzags, ça va être des drains. Comment ça a commencé dans ton cas, toi?
C'est un peu une longue histoire. Là. Fait que si tu me permets, je vais commencer par le commencement,
en fait,
qui est ma jeunesse.
Oui.
Je pense qu'on commence tout par là, vu que c'est un moment qui est très formateur pour ta personnalité, puis aussi les expériences que tu vis qui vont dicter plus ton chemin de vie vers qu'est-ce que tu vas devenir plus tard.
Oui.
Donc, quand j'étais petit, à l'âge de 6-7 ans, ma famille avait un chalet, puis il y avait un secteur à côté de notre chalet, pas trop loin, c'était des chalets abandonnés qui avaient été achetés par un promoteur pour faire un genre de développement immobilier qui n'a jamais eu lieu finalement. Donc, les chalets n'ont pas été démolis tout de suite, puis sont restés là à l'abandon pendant plusieurs années.
Fait qu'on parle pas juste d'un ou deux chalets. Là.
On parle d'un quartier de chalets, donc une dizaine de chalets au moins. Okay. Là, c'est sûr, j'avais 6-7 ans quand j'ai mis les pieds là pour la première fois, puis on n'allait pas jouer là tout le temps, mais j'ai un souvenir très marquant d'être rentré dans une de ces bâtisses-là. Puis, tu sais, tout était encore là, les comptoirs, les meubles, certains meubles, tu sais, puis c'était un peu saccagé. Comme n'importe quel bâtiment abandonné que tu vas rencontrer aujourd'hui. Mais c'est ce qui m'a le plus marqué, en fait, c'est les odeurs. Ça reste avec toi toute ta vie. La première fois que tu sens du tapis mouillé ou une odeur d'humidité, d'infiltration d'eau, un peu des odeurs de moisissure. Donc, ces premiers contacts-là, ça a été à l'âge de 6-7 ans dans des chalets abandonnés à Pointe-des-Cascades.
C'est tôt.
Puis c'est drôle parce que 30 ans plus tard, je rentre dans un bâtiment abandonné, puis oups, une odeur qui me rappelle exactement la même odeur. Donc, tu reviens, c'est fort les odeurs, hein, te faire revenir dans ton souvenir.
C'est un peu le principe, tu sais, de la tarte aux pommes te rappelle ta jeunesse quand tu allais chez ta grand-mère ou je sais pas trop quoi, de ce genre de truc-là.
C'est ça. Donc, tu sais, je pense que étant très jeune, j'ai développé une curiosité de « Hey, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a, visiter des endroits, etc. » Puis, je me souviens aussi, ça a plus ou moins rapport, mais Tchernobyl. Quand c'est arrivé, puis que j'ai lu un article du Reader's Digest au même chalet de ma grand-mère, dans la salle de bain, elle avait ses Reader's Digest empilés un
fardeau. Généralement, c'est le genre de lecture qu'on trouve chez nos grands-parents.
Et voilà. Puis là, tu sais, on parle, c'était en 88-89, j'avais 8-9 ans. Puis, j'ai lu l'histoire de l'explosion du réacteur à Pripyat, qui ont évacué la ville. Puis, je me suis toujours dit, waouh, une ville abandonnée au complet. Là. C'est plus que les petits chalets à côté de chez mes grands-parents. Là. Donc, ça aussi, ça avait un attrait fort de je veux aller dans des endroits qui sont peu fréquentés ou interdits ou dangereux, qui présentent un risque pour la santé, des radiations ou des égouts, on s'entend aussi, c'est pas l'endroit le plus sanitaire au monde.
Non,
mais on va y revenir. Ouais. Donc, il y a toute la période formative, si on veut, qui m'a amené jusqu'au hobby de l'exploration urbaine. Qui est un hobby qui a été si on veut, qui a toujours existé, right? Les explorateurs de pyramides.
Exact, ça a toujours existé.
Mais il n'y avait pas un terme précis.
Il n'y avait pas un nom associé à cette chose-là. Ça, au départ, tu t'explores parce que tu dis « Ah, c'est fun », puis à un moment donné, tu apprends « Ah, OK, ça s'appelle l'urbex. Ah, OK. »
C'est un terme c'est un terme que j'aime moins parce que c'est vraiment une abréviation, puis c'est les gens transforment ça en verbe puis en adjectif. Oh, c'est pas urbexable, c'est pas ci, c'est pas ça, mais regarde, l'exploration.
Oui, le bon terme qu'on préfère un peu, les gens de cette communauté-là, c'est beaucoup plus l'exploration, qui est un peu plus ce que c'est en réalité. Tu te rentres dans un bâtiment, tu t'en vas explorer, tu t'en vas pas. Urbexer, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça permet de pouvoir encadrer et de dire, bon, OK, voici à quoi ressemble la discipline, mais
explorer. Ouais. Ben, selon moi, urbex, c'est un terme profane plus pour le public général, si on veut, pour expliquer. Ouais, c'est ça, c'est le terme qui reste dans la culture populaire mainstream, si on veut.
Ouais.
Mais des gens qui sont, comment je pourrais dire, des gens qui sont plus haut dans l'élite de ces explorateurs-là, il y a toujours des gens qui vont faire des endroits plus risqués ou plus difficiles d'accès. Ces gens-là vont toujours rire des gens qui vont employer le terme urbex parce que justement, c'est plus mainstream, ouais. Alors que ces gens-là n'emploieront pas nécessairement un terme particulier autre que explorer ou exploring, ouais. En anglais. Donc,
bref, dans ton cas, toi, tu as commencé en faisant de l'explore. De façon un peu champ gauche, où est-ce que tu découvres des lieux dans ton entourage?
Ouais, puis tu sais, c'est poussé par la curiosité. Donc, tu sais, on parlait des odeurs. Mes premières expériences, ça a été beaucoup, soit avec mon frère dans ses chalets abandonnés à Pointe-des-Cascades ou avec mon père en se promenant sous le terrain de l'exposition agricole dans un petit village où j'ai grandi à l'époque. Ça a été mon premier contact avec, mettons, une charogne d'animaux morts. Okay. Parce que ça arrive fréquemment qu'on puisse rencontrer des animaux morts dans des endroits abandonnés. Donc, l'odeur d'une carcasse en décomposition. Encore une fois, j'ai vécu ça très jeune, de découvrir des endroits, des espaces liminaux, comme on pourrait dire, des endroits qui ne sont pas utilisés à longueur d'année ou qui sont utilisés juste pour un moment spécifique et le reste de l'année tombe en dormance. Ça m'a toujours aussi eu un attrait pour moi parce que, bon, c'est un endroit que tu peux être toi-même, t'approprier cet endroit-là temporairement sans nécessairement être sous le regard des autres ou juste d'avoir un peu un sentiment d'être coupé du reste du monde. T'sais. Puis même chose dans un bâtiment en plein centre-ville de Montréal, t'es tout seul dedans, t'as ce sentiment de quiétude puis de zénitude d'être seul dans cet endroit-là ou juste avec certains amis. Puis t'as le reste du monde qui bouge puis autour de toi qui continue à vivre puis il n'y a aucune idée que t'es là.
Non, exact. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un peu utopique de faire de l'explo en plein milieu d'une ville où est-ce que tout est bruyant autour, puis toi, t'es dans le seul petit îlot de quiétude où est-ce que soudainement, ben, t'es tout seul alors qu'il y a des centaines et des centaines de personnes qui circulent autour de toi. Là. C'est assez intéressant.
Puis aussi, un aspect de ma jeunesse, j'ai toujours aimé ça être caché. C'est pouvoir observer sans être vu. Drôle d'anecdote, quand j'étais jeune, je me levais souvent le dernier. J'ai toujours été un lève-tard. Puis, je me réveillais dans mon lit, puis j'entendais ma famille, ça ferait à leur journée. Puis moi, j'aimais ça les surprendre. J'arrivais dans la cuisine, puis ils étaient en train de faire. J'arrivais pas bang, 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 bang. J'arrivais sur la pointe des pieds, puis là, pouf! Tout d'un coup, j'apparaissais. Là, des fois, je faisais sursauter ma mère. Fait que le petit côté ninja, caché, stealth.
Okay.
Ça, j'aimais bien ça. T'sais. Fait que, mettons qu'on on se propulse un peu plus à l'âge de l'adolescence, j'étais déménagé à Trois-Rivières, puis on vivait dans un quartier en développement, donc un nouveau développement résidentiel, ils construisaient des rues puis des maisons. J'avais 11-12 ans à l'époque, donc mon premier contact avec des drains, ça a été la pose des égouts pluviales qu'ils mettaient dans la rue avant de les mettre en fonction, bien sûr. Puis mon ami et moi, on se tentait, on disait t'es pas game de descendre dans l'échelle, de ramper dans le petit égout de 24 pouces, on a des petits gabarits à 11-12 ans, puis de ressortir de l'autre bout. Puis on n'avait pas de lampe de poche, pas rien, fait que c'était des tentes le diable. Là.
Fait que ça a commencé avec un t'es pas game.
Pas mal, pas mal comme ça. Puis aussi pour d'autres raisons, tu sais, les jeunes, bon, quand on allait faire des parties, on avait des pits de sable à Trois-Rivières, on avait des parcs, mais on avait aussi un bâtiment abandonné au centre-ville qui avait passé au feu puis qui était comme partiellement démoli. Puis je sais pas d'où ce qui est venu l'idée, mais à un moment donné, on a suivi soit une gang de jeunes ou qui nous avait dit « Ah ouais, on peut aller là, tu sais, boire de la bière, tout ça. » OK, fait qu'on est descendu. Fait que ça a été mon premier vraiment, ce que je pourrais qualifier de plus proche de ce qu'est une exploration urbaine, en fait, de s'infiltrer dans un endroit en plein jour en essayant de ne pas se faire voir par les passants, descendre dans le sous-sol, trouver notre chemin jusqu'au toit pour avoir la vue. Puis, fait que la première fois que j'ai marché sur une toiture molle, tu sais, de voir les résultats de l'infiltration d'eau dans des bâtiments, l'odeur de feu puis d'eau.
Ouais.
C'est un bâtiment qui a brûlé, puis tu rentres après coup, puis ça sent encore le bois brûlé, la fumée. Ouais, fait que ça, c'est très marquant encore pour moi dans ma mémoire olfactive, d'avoir vu, mettons, une salle mécanique d'ascenseur au-dessus de l'ascenseur sur un toit pour la première fois. Fait que toutes les autres fois après que j'ai... Quand j'ai commencé à explorer plus sérieusement, de voir des mécanismes d'ascenseur, ça me rappelait toujours ce bâtiment abandonné au centre-ville de Trois-Rivières. J'étais comme, ouais. J'ai vu ça à 14-15 ans. Là,
ben, c'est ça un peu le principe de l'expo. Le but, c'est d'accéder à des endroits que tu n'es pas habitué d'aller. Que peu vont. T'sais, d'aller dans une prison abandonnée, d'aller justement dans des cages d'ascenseur où est-ce que tu ne vois pas, sauf quand tu regardes, je ne sais pas, mettons, un film Die Hard, je ne sais pas trop quoi. T'sais, c'est ça qui est l'attrait de la chose. Fait que c'est un peu vers ça qui t'a emmené tranquillement, pas vite, vers les drifts?
Oui. Ben, il y a encore plusieurs étapes avant qu'on se rende jusqu'au drain. Okay. Mais, tu sais, je pourrais pas cibler exactement c'est quoi, mais ça doit être un amalgame de plusieurs choses. Peut-être le fait d'avoir grandi en banlieue puis creuser des forts sur le bord du banc de neige dans ma rue en hiver, d'avoir des tunnels puis des... Ça fait partie aussi de peut-être ce qui a développé mon attrait pour ça, mais j'ai toujours eu une préférence pour tout ce qui est souterrain.
T'es pas claustrophobe?
Pas vraiment. Ou en tout cas, je me suis jamais vraiment posé la question. Mais tout ce qui est souterrain ou mettons même une grotte ou une caverne, c'est souterrain, mais ça a moins d'attrait pour moi parce que c'est vraiment, on dirait que je fais plus une fixation sur qu'est-ce qui a été construit par l'homme. Fait que donc des mines... des fortifications, des tunnels militaires, des bunkers, d'infrastructures. Parce que là, veux, veux pas, tu peux pas choisir qu'est-ce que tu as dans ta ville. Hein. Tu vas explorer qu'est-ce qu'il y a à ta disposition. Ben, si j'habitais, mettons, en Alsace, j'explorerais des ouvrages de la ligne Maginot. Si j'étais à Paris, j'explorerais plus les catacombes. Malheureusement, dans ma situation à moi, j'étais à Montréal. Puis qu'est-ce qu'on avait à notre disposition? C'était les tunnels de métro puis les drains. Les tunnels de métro, à l'époque, c'était encore quelque chose d'un peu mal vu à explorer. Là, on parle de période pré-médias sociaux, avant Instagram, avant YouTube, puis avant les chercheurs de...
De
fame ou whatever. Ouais. Donc, ce qu'on avait, c'était des égouts à Montréal. Fait que c'est un peu... Mais il y a une histoire un peu plus longue que ça, là. C'est sûr, évidemment. Quand j'ai commencé à explorer... de façon plus sérieuse, donc on parle en 2011, j'ai lancé un appel sur les médias sociaux, puis une personne qui est devenue un de mes amis très proches par après, qui était français, qui vivait à Montréal, il était très fort dans l'exploration des silos à grains à ce moment-là, il dit « Montréal, on a un passé industriel incroyable
oui. ».
Quelque chose que je savais pas à l'époque, fait que j'ai appris plusieurs choses que je sais aujourd'hui grâce à mon intérêt pour l'exploration urbaine. Donc, pour le nommer, cette personne-là, Cyril, il m'a amené faire ma première exploration sérieuse, là. Donc, en novembre 2011, fait que je venais d'avoir 30 ans. Fait que pour moi, c'est pas quelque chose c'est quelque chose que j'ai toujours vécu jeune, que j'ai vécu à un jeune âge, mais que j'ai pas développé activement avant d'être plus mature.
C'était pas nécessairement de façon sérieuse, c'était de façon plus anecdotique.
Sporadique, puis des raisons différentes aussi. Puis à un moment donné, c'est drôle parce que quand j'étais dans ma vingtaine, j'habitais en colocation avec mon meilleur ami avec lequel j'ai étudié en mécanique de bâtiment. Puis c'est lui, à un moment donné, qui m'a fait part du site explorationurbaine.ca, un site à notre bon ami Spec. Et puis... Son site était fait de façon très professionnelle et adulte, donc c'était pas sensationnaliste, c'était plus documentaire.
Ouais.
Si tu te souviens, si tu as déjà consulté son site, il y a une fiche technique, le type d'architecture du bâtiment, les matériaux, tu sais, c'est pas juste des photos.
Il y avait un travail de recherche qui avait été fait.
Incroyable. Puis moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup inspiré, puis que je me suis dit, si jamais je fais de l'exploration urbaine, c'est quelque chose comme ça que je veux faire. Pas juste de la photo, pas juste de l'exploration, mais de la recherche historique, de la documentation à travers tout ça. Fait que ça a été un peu un de mes facteurs motivants principaux le site de Spec. Et à travers son site, j'ai découvert UER.ca, qui était à l'époque le forum mondial, un des forums mondiaux principaux pour que les explorateurs puissent se rejoindre, là, puis échanger sur le sujet. Donc, à travers le site de Spec, ça c'était en 2003-2004, UER était pratiquement un bébé naissant, mais mon coloc qui m'amène l'information, lui, il travaille sur des chantiers, des salles mécaniques, n'importe quoi, tout ça. Fait qu'il était pas, il était moins motivé à aller explorer des choses qu'il voyait dans son travail de tous les jours, alors que moi, qui travaillais dans le même domaine, mais moi, j'étais consigné au bureau, fait que je faisais le côté conception. C'est sûr qu'une fois de temps en temps, j'allais sur des sites existants faire des relevés puis tout ça, visiter des salles mécaniques, mais en tout cas, lui, il avait la partie fun, mais c'est drôle parce qu'il me donne l'information, il se désintéresse, puis finalement, ça prend 7 ans avant que je décide d'être assez motivé pour dire, ben là, ça y est, là, je vais partir avec ma petite caméra de vacances, pas de trépied, petite lampe frontale, cheapette à 2 piastres. Suivre mon ami Cyril qui me disait, hey, je vais t'amener au silo numéro 3. À l'époque, le silo numéro 3 il était encore désaffecté, il n'était pas reconverti comme il est aujourd'hui. Puis c'était pas un lieu qui était pas très fréquenté par les explorateurs. Fait que c'était pas comme, mettons, la Canada Malting ou la Brasserie d'Or que tout le monde rentrait et sortait. Fait que moi, après, plus tard, quand j'ai été mis en relation, quand j'ai été présenté à certains membres de la communauté locale à Montréal, puis que là, tu sais, on veut qu'on échange nos pédigris, qu'est-ce qu'on a exploré, puis là, ils disent, ah, ben, moi, ma première exploration, ça a été le silo 3, puis après le silo 5, puis en fait, comme, t'es une anomalie, toi. T'as pas commencé par la DAO, la Malting, quelque chose de plus petit.
T'as commencé par les lignes mineures, t'es allé dessus.
Ouais, moi, straight for the top, là, tu sais, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, ah, ben, pas au courant, tu sais. Je peux juste suivre mon ami Cyril, tu sais. Puis c'est drôle parce que Cyril, il arrive de France, puis c'est un explorateur de souterrain. Il faisait des carrières de banlieue, il explorait les catacombes de Paris. C'était le genre de gars qui allait prendre 6 photos dans une place. Okay. Puis moi, tu sais, un explorateur aguerri qui sait qu'est-ce qu'il veut prendre, puis qu'est-ce qu'il sait qu'il veut pas prendre. Puis moi, à l'époque, j'étais un petit chiot lâché dans un terrain de jeu. Moi, je prenais 250, 300 photos par sortie, là, pour en éditer peut-être 8 12, ou 10.
C'est ça.
Mais lui, il prenait 6 photos. 6, mais tu prenais une couple de photos, puis j'étais comme, comment? Pourquoi tu prends pas 100 000 photos, tu sais? Ça
donne quoi?
Ça m'a pris 10 ans à arriver à son stade où est-ce que je suis comme, je vais juste l'explorer, je vais prendre 2-3 photos, puis ça va être correct. Mais tu sais, on avait un gros gap d'expérience, mais c'est correct. T'sais. Puis lui, il me prend sous son aile, puis il m'amène au silo 3, puis au silo 5, puis éventuellement, il repart en France. Mais avant qu'il reparte en France, c'est avec lui que j'ai fait mon premier drain à Laval.
OK.
Ouais. Parce que moi, comme tu dis, comme je te disais, je suis une anomalie. J'ai pas exploré les bâtiments abandonnés dans le même ordre que tout le monde. J'avais découvert le site. Bon, à travers UER, j'avais vu aussi d'autres entrées qui avaient des égouts à explorer à Montréal. Je découvre le site Under Montreal par Andrew Aymon, qui est l'ancien partenaire d'exploration d'égouts de Daniel Plamondon.
Qui est?
On va y revenir. On va en parler beaucoup de Daniel parce que c'est quelqu'un qui est...
C'est une femme personne, importante.
C'est une personne pivot dans ma vie d'explorateur autant que ma vie personnelle.
Oui.
Et quasi professionnelle même. On va y revenir. Mais oui, à l'époque, je connaissais Daniel sans la connaître puis sans qu'elle me connaisse. Pour expliquer, c'est que son nom apparaissait souvent dans des blogs d'explorateurs européens, australiens, qui vivaient un mode de vie encore plus hardcore que ce que je pensais qu'il pouvait exister dans l'exploration. C'est-à-dire des gens qui partent d'Australie pour aller s'installer à Paris, vivre dans des bâtiments abandonnés, squatter des places, patenter le Wi-Fi, l'électricité, vivre sans loyer pendant 6 mois dans une place sans se faire poigner, explorer le métro de Paris, explorer des égouts à Londres,
etc. Des gens qui ont fait une profession. Là.
Ouais, genre, c'est un mode de vie. Puis, ces gens-là, c'était toutes des inspirations pour moi. Je les ai toutes placées automatiquement sur des piédestals, sans savoir que j'allais toutes les rencontrer un jour, tu sais, devenir ami avec certains d'entre eux. Mais à l'époque, pour moi, c'était quelque chose qui était totalement inaccessible dans mes pensées. C'était juste, OK, je vois que ça, c'est possible. Il y a des gens qui font du squat. Il y a des gens qui explorent les tunnels de métro. Hein, d'autres qui font des égouts. Non, mais tiens, l'exploration urbaine, après tout, c'est pas juste des bâtiments abandonnés.
Non, c'est assez large.
Exact. Puis il y avait l'attrait souterrain que c'était un peu plus élitiste, sans vouloir me prononcer comme étant élitiste, mais c'était comme ah, c'est pas tout le monde qui va dans les aiguilles.
Non, parce
c'est pas
que
tout le monde qui va faire des
tunnels.
C'est
un monde très différent. Là. C'est on ça. S'entend un bâtiment abandonné. C'est aéré. C'est quand, oui, des fois, ça va sentir, mais ça reste que c'est une structure qu'on connaît. Un égout, c'est de l'inconnu au complet parce que tu n'as plus de repères. Tu sais plus. Quand tu marches dans une direction, tu n'as aucune façon de savoir t'es-tu vers l'est, t'es-tu vers le nord. Peu importe, tu ne sais pas. Tu perds un peu. Tes repères.
Puis c'est aussi un bâtiment abandonné en surface est beaucoup plus visible puis attrayant ou comment il peut attirer des potentiels visiteurs en montrant sa facette abandonnée. Alors qu'un égout, c'est caché sous tes pieds. Personne ne le voit. Faut que tu saches que c'est cette plaque-là qui va te mener à tel endroit. Comme moi, je fais beaucoup de plans. Je travaille avec des plans. J'aime les plans. Fait que je suis un map geek, si on veut. J'aime bien avoir des copies, faire de la recherche historique, de la recherche documentaire, tout simplement. C'est aussi une grosse partie qu'on voit pas dans le travail d'un explorateur, si on veut. C'est-à-dire qu'avant de trouver un spot, faut que tu l'ailles chercher, faut que tu l'aies appris, soit en faisant tes propres recherches, trouver des articles de journaux, etc., etc. C'est la même chose avec les drains. Hein.
Puis tu te renseignes, qu'est-ce que je vais trouver là?
C'est ça.
Tu fais pas juste popper des manœuvres pour aller dire, bon, bien, OK.
Mais des fois, c'est ça qu'il faut faire. Des fois, il faut juste se lever, passer une nuit, lever des plaques, puis trouver la bonne chose. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir couper à l'accès direct vers l'information que je voulais en accédant au plan de génie civil par les plans que j'avais dans mon bureau.
Ouais.
Parce que comme je te dis... Comme je disais, je venais d'une firme d'ingénieurs, on est 5000 employés, on a un département génie civil, structure mécanique, électrique, municipale, énergie, on faisait des centrales en Haïti, au Vietnam, en tout cas. Donc, à un moment donné, je trouve un répertoire de plans de géomatique de l'île de Montréal, parce que quand on fait des plans de plomberie puis qu'on doit connecter l'égout qui sort aux égouts municipaux, ben, il faut qu'on sache sur quoi qu'on se raccorde. À un moment donné, là, je commence à trouver des plans avec, un tracé d'un collecteur qui est assez gros pour marcher dedans. Là, à un moment donné, j'apprends qu'on peut aller au département de la ville de Montréal, le département de géomatique, acheter des plans.
OK.
J'ai dépensé une couple de centaines de dollars sur les trous qui me manquaient, que j'étais pas capable de, que j'avais pas trouvé sur le réseau de ma job.
T'avais un labyrinthe, mais t'avais pas toutes les...
J'avais un puzzle puis il manquait des pièces. Maintenant, j'ai à peu près 80% du puzzle.
OK.
Ça m'a pris 8 ans à accumuler la documentation. Je m'étais imprimé, en fait, un petit cahier 11x17. J'ai même été jusqu'à tout redessiner ces tuyaux-là sur Google Maps.
Okay.
Malheureusement, j'ai perdu l'accès à cette carte-là. À un moment donné, j'ai changé de compte, puis j'ai jamais été capable. Ou j'ai fait du ménage, puis j'ai dû l'effacer par erreur. Fait chier parce que j'ai mis des heures et des heures, je te jure, là, des soirs à travailler sur mon laptop pendant que ma femme écoutait ses séries. Là, je travaillais puis je traçais des drains. Je devais avoir l'air autiste ou innocent pour elle, tu sais, qui comprend pas ça. Il est là puis il surligne ses lignes avec trois couleurs différentes. J'avais ma petite codification. Vraiment comme un nerd, là, tu sais.
OK.
Mais j'aime ça. J'aime les plans, j'aime les cartes. Fait que, en ayant accès à cette information-là, ça m'a évité beaucoup de sessions de lever des manoles comme Daniel et son partenaire Andrew faisaient.
Mais là, maintenant, la question qui se pose, c'est, OK, là, tu me parles de ça, des drains, tout ça, mais concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve comme truc sous terre à Montréal, dans une grande ville, au Québec ou un peu à l'extérieur? Mais commençons par ici. Dans une grande ville, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le souterrain?
Comme truc enfoui ou spécifiquement aux égouts?
Ah ben, comme truc enfoui, tu sais, si on ratisse un peu large, du moment que tu t'en vas sous terre, bon, on a toujours un peu l'image du... De l'égout un peu londonien, où est-ce que c'est de la brique qui forme un beau rond, puis tout le kit. Est-ce qu'on a ça à Montréal? Est-ce qu'on a des endroits où est-ce que les gens pourraient vivre, à la limite? Y a-t-il des rats dans les égouts? Ça fait beaucoup de questions, mais si on y va un peu dans un premier temps avec c'est quoi un peu les structures souterraines qu'on a à Montréal?
Ben, tu l'as quand même bien décrit. Là, si je fais un rapide survol de qu'est-ce que tu peux trouver. Après, on va venir aux égouts, là, mais c'est sûr qu'il y a des conduits électriques enfouis. Ça, c'est pas un tunnel nécessairement. Quoique, à Paris, tu as des galeries techniques qui contiennent les conduits électriques.
Oui.
Les réseaux d'égouts ne sont pas nécessairement faits pareil d'une ville à l'autre, mais fonctionnent tous sur le principe de la gravité. Donc, ce qu'on peut retrouver sous le sous-sol de Montréal,
oui.
En termes d'égouts, oui, on va avoir des égouts en briques, puis on va en avoir des assez grands pour marcher dedans, mais la majorité des égouts sur les petites rues vont être à peu près 2 pieds de large par 3 pieds de haut.
Okay.
Tu peux te promener en petit bonhomme dedans, mais il ne faut pas que tu aies un gros gabarit.
Tu ne feras pas beaucoup de photos. Là.
Ouais, ils sont en forme d'œuf inversé pour des qualités hydrauliques. Ça s'écoule mieux comme ça. Puis effectivement, les premiers égouts à Montréal ont été construits en briques. Et le plus vieux collecteur d'égouts au Canada est d'ailleurs à Montréal. On peut le visiter à Pointe-à-Caillère, dans le musée de Pointe-à-Caillère. Il y a une section de collecteurs. C'est un ancien collecteur, William, qui, en fait, canalisait la jonction des trois rivières, la petite rivière Saint-Pierre, la rivière Saint-Pierre, puis le ruisseau Saint-Martin, sous Square Chaboyer, jusqu'au marché Saint-Anne. On canalisait ça. C'est un égout tout en pierre, en fait, en grosse pierre de taille, ce qui n'est pas très commun à Montréal, vu que c'est le premier égout collecteur du Canada, construit au Canada. Ils ont construit ça en pierre à l'époque, puis à un moment donné, plus tard, vers les années 40, 50, est venu la brique.
Okay.
Pour te faire un comparatif, à la même époque, Londres avait aussi un problème de puanteur. Leurs égouts se jettent dans la Tamise, puis la Tamise, c'est une rivière qui subit le mouvement des marées.
Oui.
Donc, ils ne peuvent pas rejeter leurs égouts à marée haute. Il faut qu'ils les rejettent à marée basse, puis que la marée haute, après, emporte le tout. En tout cas, il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes. Puis, le Parlement, qui était situé sur le bord de la Tamise, en 1854, il y a eu l'été qu'ils ont appelé le Great Stink of London, donc la grande puanteur de Londres. Les parlementaires n'étaient même plus capables de faire leur travail tellement que la Tamise émanait des odeurs nauséabondes qui les empêchaient de se concentrer sur leur travail. Ils ont débloqué un énorme budget. Ils ont mandaté un ingénieur britannique du nom de Sir Joseph Bazalgette, qui est comme un peu le héros des drainers.
OK.
Parce qu'il a fait, c'est un peu le père des égouts modernes. Donc, de 1854 à 56 à Londres, ils ont enfoui 300 millions de briques pour créer un des plus beaux réseaux d'égouts de briques au monde. Quoique Prague a aussi son mot à dire là-dedans, qui est le même modèle un peu que Bazalgette a fait. Donc, des collecteurs qui se jettent dans des intercepteurs, qui se jettent dans la Tamise ou dans des bassins de rétention qui pouvaient être juste libérés à marée basse. En tout cas, un système d'ingénierie victorien top.
Bien réfléchi.
Ça, c'est en 1856, mettons.
Okay.
À Montréal, on a commencé à construire des égouts en 1845. Je dis pas que Londres avait pas d'égouts non plus, mais on était une colonie britannique. Tout ça pour dire qu'on a construit nos égouts pas trop tard après Londres, puis à peu près dans le même temps, en s'inspirant de l'innovation qui venait d'être faite à l'époque. Fait que c'est quelque chose que je savais pas sur Montréal, mais qui m'a donné tellement de fierté puis tellement d'amour pour notre ville de savoir qu'on était la première métropole du Canada avant l'incendie du Parlement en 1848. Mais aussi la première à avoir des égouts. Toronto s'est doté de son premier système d'égouts en 1908. Puis pourquoi Montréal a eu toute cette attention-là aussi dans les années 1800, c'est qu'on était la capitale du Canada, mais on était le powerhouse industriel aussi du Canada. Oui. Le fait que toute la circulation, les biens circulaient par le Saint-Laurent, par l'eau, jusqu'au Grand Lac. Donc, on était stratégiquement bien placé. Donc, oui, effectivement, Montréal était une métropole, donc devait se doter des services dignes d'une métropole. Donc, on a pris le modèle des égouts de Bazalgette. On a construit à partir des années 60, en 1860, une série de collecteurs en briques dans la vieille partie de la ville, là, qu'est-ce qui était la ville de Montréal à l'époque. Aujourd'hui, on s'entend, elle a pris plus d'expansion.
Oui.
Donc, si tu prends les vieux secteurs de la ville, qu'est-ce qu'on va trouver sous terre? Des beaux égouts en briques. La majorité sont trop petits pour être explorés, mais comme l'égout Craig, sur lequel on va revenir plus tard,
oui.
C'est juste une merveille d'ingénierie victorienne. Puis c'est drôle qu'on ait ça à Montréal, de penser des trucs qui datent de l'époque victorienne. Qui sont encore en excellent état. Là.
Fait que c'est plus anecdotique qu'on ait ça, ou c'est vraiment une innovation qui a servi beaucoup la ville?
Ah oui, ça l'a servi la ville, ça l'a sauvé. En fait, là, je sais qu'on... On va en parler plus tard de la station Craig, mais si on peut faire juste une petite introduction rapide, la station Craig, elle a prévenu les inondations de la basse ville pendant près de 100 ans à Montréal.
Okay.
C'est peu connu, mais c'est un peu pour ça qu'on se bat aussi pour la préservation du patrimoine de la station Craig. Je sais qu'on changer les ordres.
Mais là, je reviens un peu derrière, OK? Je reviens à l'époque où est-ce que tu commences à explorer, où est-ce que tu commences à greffer à ton réseau des gens comme Daniel Plamondon, comme Andrew.
Mais c'est drôle parce que j'ai jamais rencontré cette...
Tu l'as jamais rencontré?
Ben, je l'ai rencontré une fois ou deux à travers Daniel, mais pas dans un contexte exploratoire, parce que lui, il est parti à Toronto. Il est parti à Toronto avant que je commence à explorer.
OK.
Donc, j'étais un peu le remplaçant de Andrew quand j'ai commencé à explorer des égouts avec Daniel.
Mais parlons-en de Daniel. C'est qui cette personne-là? Qui est Daniel Plamondon?
Oh, Daniel, mon Dieu. Quelle légende. Si femme fantastique.
Si on a résumé un peu...
C'est une des trois femmes de ma vie. Okay. Donc, la première femme de ma vie, il y a ma mère. La deuxième femme de ma vie, c'est mon épouse. Puis Daniel, c'est mon âme sœur exploratoire, si on veut. C'est avec elle que j'ai passé beaucoup de mes belles expériences souterraines avec Daniel. Donc, Daniel, avant que je la rencontre, je la connaissais de réputation. Comme je t'expliquais, je lisais des blogs de mes explorateurs idolâtrés européens. Puis là, il y avait tout le temps ce nom-là, Nell 58, qui sortait. Ah, Famous Canadian Explorer, Nell 58. Puis je suis comme, ah, ou Gentil Nell 58. Puis je suis comme, ah, on a une Canadienne, OK. À un moment donné, sur UER, je trouve des entrées par Nell 58. Puis je me rends compte que cette personne-là vit à Montréal. Mais je pense que c'est un homme, parce qu'on ne sait pas le sexe de la personne sur l'air. Bref, avec la photo d'avatar, c'était un chien. Puis là, je vois aussi que cette personne-là explorait des égouts, puis je suis comme, oh, t'as un petit peu, toi.
C'est intéressant.
Ouais, puis moi, je venais de m'acheter une maison à Laval, je venais d'emménager, je me tout ferais 30 ans, puis motivé à explorer. Puis moi, je me mets en tête de faire ce qu'Andrew Aymon a fait pour Montréal, mais à Laval.
Okay.
Fait que j'entreprends... Bon, je me bâtis des outils pour lever des plaques d'égout, je m'ajoute des chest waders, tout le kit, je m'équipe. Puis je commence à faire de la recherche, puis d'enlever des plaques la nuit à Laval. Je fais le même principe que Daniel et Andrew faisaient. Eux, il n'y avait pas de plan de géomatique comme moi j'avais pour l'île de Montréal par mon travail. Fait qu'eux, ils faisaient le field work.
T'en avais moins à ouvrir pour voir ce qu'il y avait en
dessous. C'est ça. Ben, pour Montréal, eux, ils ont vraiment défriché le terrain. Moi, je me suis mis en tête de défricher Laval. J'ai trouvé une coupe de drain à Laval, d'ailleurs, mais... Je suis vite revenu à Montréal après pour plusieurs circonstances. J'ai vendu ma maison, je suis revenu m'installer à Montréal. Fait que le terrain de jeu plus propice était Montréal.
Ouais.
Donc, mon premier drain que j'ai fait de façon sérieuse dans un contexte de « Hey, je m'en vais faire de l'exploration urbaine », c'est un drain à Laval avec Cyril, mon ami français, qui était encore au Québec. Il est reparti en France pas longtemps après, mais ça m'a donné l'occasion d'aller le visiter à Paris puis de... éventuellement d'explorer des carrières de banlieue. Puis
ça, on va en parler des voyages que tu as eu à faire, mais si on vient un peu à Daniel, bon, tu me dis que c'est quelqu'un qui était déjà une exploratrice depuis un bon moment avant toi, tu as eu la chance de la rencontrer, tu as eu la chance d'explorer avec elle. C'est une femme quand même qui a plusieurs passions, elle a fait du drain, elle a fait du rappel.
Rappel dans les silos, oui.
Oui, exact, des trucs comme ça. C'est quelqu'un qui avait quand même plusieurs terrains de jeu. Ben,
qui porte plusieurs chapeaux. En fait, Daniel, c'est une pianiste de formation, mais aussi danseuse de flamenco. Donc, le côté artistique est indéniable chez elle. Mais Daniel, c'est quelqu'un que je pourrais pas nommer quelqu'un qui aime pas Daniel. Tout le monde aime Daniel. Tout le monde connaît Daniel. Daniel connaît tout le monde.
Ouais.
Elle a un réseau de contacts et de connexions incroyables, cette femme-là. Puis je lui dois pas mal tout. Je lui dois beaucoup, en fait, sur les possibilités, les portes que ça m'a ouvert. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont été ouvertes par Daniel. Donc, quand elle a vu que mon intérêt d'explorer des égouts était manifeste et qu'il était concret, on s'était rencontrés avant, on explorait déjà des bâtiments abandonnés depuis un an ensemble. Mais là, moi, je lui fais part de mon intention d'explorer des égouts. Tout ça. Elle me dit « Ah, ben c'est cool, mon partenaire Andrew est parti vivre à Toronto. » Fait que « OK, ouais, on s'arrangera. » C'était qu'à un moment donné, on a fait mon premier drain à Montréal avec elle, qui était quelque chose qu'elle n'avait pas vraiment exploré encore. Fait que c'était sa première fois pour elle aussi à cet endroit-là. Moi, c'était totalement ma première fois tout court. Si on enlève le fait que j'avais déjà exploré un drain pluvial à Laval. Mais à Montréal, c'est des égouts combinés, fait que c'est un peu différent. Fait que finalement, ça va être une super belle découverte. Je pogne la piqûre, je suis comme, OK, quand est-ce qu'on y retourne? Fait qu'on s'arrange pour explorer, je pense, une couple de semaines après, c'était en février 2014, puis elle me dit, ah, je vais vous amener à la station de pompage Craig. moi, j'avais le goût de voir des vieux égouts en briques, évidemment. Ouais. Après avoir vu toutes les belles photos sur le site d'Andrew Aymon, j'étais comme, ah, le béton, j'en ai vu à Laval, mais de la brique, pas encore vu ça, là, c'est ça. Fait que je savais pas à l'époque que j'allais, c'était la première fois sur une centaine de fois au moins que j'allais retourner à Craig après.
Okay.
La Craig, c'est l'égout que j'ai visité le plus souvent. Puis que...
Mais parlons-en un peu. Bon, on comprend que c'est une structure qui est en briques, mais qu'est-ce qu'on retrouve dans cet égout-là? Qu'est-ce qui est si attractif pour que tu puisses vouloir y retourner aussi souvent? Qu'est-ce que tu y trouves là que tu dis, OK, ça, je ne l'ai pas quand je vais faire de la photo, quand je vais me promener dans un bâtiment abandonné ou quand je vais dans un sentier?
Ouais, ben, tu sais, faut savoir les drains. Quand tu vas explorer un drain, ça se fait pas juste en une heure. Normalement, un drain, c'est faut que tu marches des kilomètres et des kilomètres avant peut-être de trouver une jonction intéressante à photographier ou une chambre de connexion ou quelque chose qui fait comme wow. Avec la station Craig, ce qui est fun, c'est que tu as un paquet de ces caractéristiques-là uniques dans à peu près 150 mètres de distance.
Okay.
Une demi-heure, tu as fait le tour, mais tu vas rester là trois heures pour faire tes photos.
Tu as un carrefour de toutes les cases à cocher.
Pratiquement. Égout de briques, forme en fer à cheval, pas beaucoup d'eau, des side pipes avec des pompes, l'accès aux pompes, la tuyauterie différente, des égalisateurs, des petites niches. Là, je te dis tout ça, mais tu le sais, tu l'as vu, tu as été là. Tu pourras nous raconter d'ailleurs ton point de vue par après. Des jonctions d'égouts, la job de maçonnerie, name it, il y a juste plein de belles choses à photographier. L'écluse, la porte qui bloquait le courant, en fait, de l'eau. C'est juste malade. Les systèmes de contrepoids, les engrenages, tout le kit. La maçonnerie, comment c'est fait. La petite passerelle en bois. Wow! Fait que là, on arrive là, on était... en fait, j'étais avec les deux personnes qui ont été les plus influentes dans ma carrière d'explorateur. Je vais les nommer. Là. Il y a Daniel Plamondon, puis aussi... Guillaume Clément, que tu as déjà eu dans ton podcast. Donc, Guillaume, ça a été aussi un partenaire d'exploration de longue date, qu'on faisait plus des bâtiments abandonnés ensemble, puis de l'infiltration. Mais des fois, pour les drains qui valaient la peine, les vieux drains avec l'histoire, connaissant Guillaume, c'était ce qui l'intéressait. Oui. Donc, il nous a suivis à la Craig, puis on a vraiment comme, wow, OK, c'est bien beau cet endroit-là. Puis moi, je suis quelqu'un qui n'hésitera pas à retourner quatre fois, cinq fois à la même place, refaire des photos que j'ai pas aimées ou juste m'imprégner de l'endroit. Des fois, tu n'es pas dans le même mood que la fois d'avant ou tu vois quelque chose, un détail que tu n'avais pas remarqué. Genre après 60 visites, on a trouvé une patte de chat dans une brique. Tu sais, une empreinte de patte de chat,
okay.
Ça a pris 60 visites avant que... Je dis 60, c'est peut-être pas le chiffre exact, mais ça a pris...
Ça en a pris plus qu'un ou deux.
Ouais, une shit tonne de visites avant qu'on se rende compte. Il y a des pattes de minou aussi sur les briques ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le quartier centre-sud, Ville-Marie, là, mais moi, j'ai habité deux appartements différents sur une période de 10 ans, 12 ans, 13 ans à Montréal, dans ce quartier-là. Puis le premier appart que j'avais sur Sainte-Élisabeth, c'était ça. J'avais à peu près une douzaine d'empreintes de pattes de chat sur mon mur de briques dans mon salon. Des partiels, des complètes, des doubles. Puis quand j'ai emménagé à côté de la Craig en 2021, même chose, j'avais une trentaine. Des quadruples, des pleines, des complètes, des doigts.
Fait que visiblement, il y avait une usine de briques qui avait beaucoup de chats autour.
Ouais. Puis moi, je suis gaga des chats. Ma femme puis moi, on adore les chats. On en a eu cinq en même temps à une époque. Fait que c'est un signe de voir ça dans la Craig. Ça m'a juste fait sourire. Mais donc, c'est ça, l'importance de revenir dans un endroit. Puis, pourquoi que la Craig, j'y revenais tout le temps, bon, c'était pas loin de chez moi. T'avais pas besoin de tout l'appareillage de gros chest waders comme quand tu vas dans des gros égouts actifs que tu as de l'eau jusqu'aux cuisses. Ou là, c'était un égout qui était partiellement déconnecté du reste du réseau, qui recevait juste les eaux des puisards de la rue.
Oui, il y avait toujours à peu près maximum, mettons,
8-10 pouces,
ouais, pouces d'eau maximum.
C'était pas beaucoup. Fait qu'on pouvait le faire en botte de pluie, ouais, si tu passais par le sous-sol. Le fait qu'il y ait beaucoup de caractéristiques, que ça peut être un endroit que tu peux visiter en une heure puis que tu es ressorti, contrairement, mettons, à les égouts dans le village, sont aussi tout en briques, mais que la fois que je l'ai fait avec Guillaume puis Marc-André Poirier, On est descendu, on a passé 5 heures. Hein. 5 heures pour faire 6 coins de rue. Okay. 5 heures, faire des photos, tout ça. Mais c'est, tu marches plus que tu t'arrêtes pour prendre des photos parce que tu as des longues sections droites avec aucun raccordement ou rien qui se passe de vraiment intéressant. Puis à un moment donné, pouf, une belle jonction. Ah bon, on va prendre des photos. Ah, c'est une telle affaire, tu sais. Fait que la Craig, tu trouves tout dans vraiment un espace très restreint. Pas restreint, mais tu trouves tout dans un espace très concentré. Ouais, très rapproché.
Écoute, Pierre-Luc, la question que tout le monde qui écoute en ce moment, qui se pose, puis je sais que c'est la question que les gens me posent le plus souvent par rapport à ça, c'est deux choses. Est-ce que ça pue? Est-ce qu'il y a des rats?
Oui et oui.
Oui et oui.
Mais non et oui. Non et non. Oui et non.
Tu t'habitues à l'odeur, dans le fond.
Écoute.
Ça sent quoi? Est-ce que c'est une odeur qui vient te chercher dans le fond de la narine puis que tu gardes en mémoire pendant plusieurs journées? Ou c'est une odeur que tu t'habitues après 3-4 minutes?
C'est une odeur unique, c'est sûr.
Ouais.
Tu vas t'en rappeler toute ta vie. Ouais. Tu vas la reconnaître n'importe où après. Mais ton nez peut t'amener à faire des belles découvertes. Parce que une fois que tu sais quoi chercher comme odeur, puis qu'est-ce qui génère ces odeurs-là? Parce qu'un petit égout ne va pas générer beaucoup d'odeurs, mais un gros collecteur avec beaucoup de courant et beaucoup de courant d'air, ça va ramener des odeurs d'égout en surface. Quand tu commences à sentir des grosses odeurs d'égout, c'est parce qu'il y a quelque chose d'intéressant sous tes pieds pas loin.
Okay.
Là, ça commence à être le temps d'aller regarder avec ta langue.
C'est là que ton terrain joue.
Dans les plaques d'égout. Puis mon nez m'a amené à faire une coupe de découverte. Mais pour répondre sérieusement à ta question, qu'est-ce que les égouts, ça sent? À Montréal, c'est des égouts combinés. Donc, tu as beaucoup plus d'eau pluviale que sanitaire. Donc, fait que déjà là, c'est très dilué. C'est pas de l'eau brune, c'est de l'eau grise, verte.
Ouais. Genre.
L'odeur la plus proche que je pourrais te dire, c'est une vieille cave humide de chez ta grand-mère. Hein. Tu sais, la vieille cave de grand-maman avec de l'eau de lavage.
Castagne un peu.
Ouais, si t'as laissé ton eau, mettons que t'as oublié ta laveuse après le son cycle, t'as oublié de mettre ton linge dans la sécheuse puis tu laisses ça pendant 5-6 heures. Quand tu vas rouvrir ta laveuse, qu'est-ce que ça va sentir? L'eau de lavage, mais l'humidité, puis la terre humide, puis c'est à peu près ça que ça sent dans les égouts. Okay. Là, tu rajoutes une petite couche de sanitaire par-dessus ça, puis ça te donne une bonne idée. Mais ce qui est drôle, là, c'est que souvent, l'odeur d'égout va être plus forte puis plus présente au-dessus de la plaque en surface. Une fois que tu as levé la plaque, puis que tu as passé comme la tranche d'odeur initiale, après, tu sens pas la même chose. Ça va sentir plus, comme je te dis, la cave humide ou le ruisseau. Oui,
parce que l'eau est, avec le mouvement, ça fait que t'as comme une draft plus de vent, à la limite.
La circulation d'air aussi fait que ça se ventile bien. Fait que t'es pas pris avec de l'air stagnant puis des gaz dangereux. Ben, pas tout le temps.
Fait que tu descends pas avec un masque.
Non. Quoique certains peuvent le faire, mais puis les employés, les vrais égoutiers, par exemple, vont descendre avec des masques avec adduction d'air juste au, puis des détecteurs de gaz, là, juste au cas qu'il y ait des. Ben nous, on n'était pas équipés de la sorte.
Okay.
Puis on a pris des risques, mais c'est des risques aussi calculés, je te dirais.
OK. Puis pour ce qui est des rats, bon, on s'entend à Montréal, s'il y a des rats dans des appartements insalubres, on se doute qu'il risque peut-être d'en avoir aussi dans les souterrains.
Oui, puis écoute, j'ai vu quelques fois des rats dans les égouts Craig, mais les rats vont avoir peur de nous. Hein,
oh,
ils
oui,
ont peur de nous, fait qu'ils vont nous entendre puis nous voir nos lumières de lampe assez longtemps d'avance que à moins que tu le prennes sur le fait, ils ont le temps d'aller se cacher. Puis, je pense que j'ai vu des rats peut-être 4 ou 5 fois sur combien de centaines de descentes. Là, c'est pas quelque chose que tu vas voir fréquemment. Je vais te dire honnêtement, à chaque fois que j'ai vu des rats dans les égouts à Montréal ou ailleurs dans le monde, c'était des petits rats super cute, très propres, qui veulent pas aller dans l'eau. Ils vont se tenir au sec. Hein, ils vont marcher sur des endroits secs, de la brique. Puis, moi, honnêtement, j'ai perdu beaucoup de préjugés sur les rats. Après en avoir rencontré une couple dans les égouts, puis de me rendre compte que c'est bien des belles petites bestioles, puis ils sont intelligentes, puis sont pas méchantes.
On a parlé un peu de ce qu'on retrouve à Montréal. T'en as vaguement un peu parlé tantôt, mais là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. T'as quand même été faire des voyages un peu partout à travers le monde pour visiter des égouts, pour visiter le souterrain de certaines villes, de certaines régions. Tu me parlais tantôt, avant qu'on enregistre, de l'Australie. D'aller en Australie déjà en partant, c'est quand même un 18 heures d'avion. Je ne sais pas trop combien de temps que ça représente. Puis toi, tu es allé là, non pas pour voir des kangourous, mais pour voir des égouts.
Ouais. Merci, Daniel. Ouais, ben regarde, en fait, j'étais loin de me douter que en commençant à explorer, j'allais voyager autant.
Okay.
Moi, mon idée d'un voyage, c'était genre aller dans le sud à Cuba une semaine, les pogner à Tourista, puis revenir, puis bon. Mais j'avais un plus fort attrait pour l'Europe. En partant, j'ai toujours été très europhile. D'ailleurs, mon premier voyage à vie, moi, je suis parti en Europe de l'Est. Je suis pas allé faire Paris ou Londres ou Berlin. Je suis allé en Roumanie.
Okay.
Je suis allé voir les gitans, puis ouais, puis j'ai trippé à fond. J'ai toujours été un fan aussi des musiques gitanes et tout ça. Donc, j'ai trippé à fond là-bas. J'ai été dépaysé. C'est ça que je cherchais. Je voulais pas arriver dans un pays de l'Ouest, tu sais, puis d'être là. C'est comme chez nous, mais différent.
Ouais, exact.
Non, en Europe de l'Est, avec les toits en tuiles, puis les gitans partout, puis j'étais comme, what? OK, là, je suis vraiment dépaysé. Puis j'aime ça. Mais j'étais loin de me douter que j'allais voyager autant avec l'exploration par la suite. Donc, ça m'a amené sur 3 continents dans au moins 8 pays différents. Donc, okay. J'ai pas une énorme feuille de route.
Mais n'empêche.
Comparant, mettons, à Daniel qui a fait tous les pays d'Europe.
La parenthèse pour dire qu'il est allé dernièrement en Ukraine.
Pendant la guerre.
Mais ça, au pire, on la recevra en émission. Je suis persuadé qu'il va y avoir plein d'histoires, mais
ça serait probablement un podcast en 3 émissions avec Daniel. Ouais. Parce qu'elle a un parcours de vie incroyable, cette femme-là, puis qui mériterait d'ailleurs aussi d'être explorée. Mais pour revenir à moi, effectivement, le premier voyage que j'ai fait, c'était en France. Je suis allé en France, j'ai passé une semaine avec Cyril, puis évidemment, en étant à Paris, on a fait des souterrains. Donc, mon premier contact avec les catacombes. C'était pas ma première fois dans les catacombes. J'avais été en 2007 faire le parcours officiel.
Le musée.
Ouais, le 3 heures d'attente à Denfert de Rochereau.
L'ai fait aussi. C'est un incontournable tant qu'à moi.
Je le fais à chaque fois. À chaque fois que je vais à Paris, je vais faire la visite officielle.
Moi, le seul truc que je déteste, c'est vraiment le 3 heures d'attente inutile.
Ah ouais, c'est pénible. Puis...
Il devrait juste vendre à la limite des cartes. Tu te pointes là à 2 heures, puis tu rentres à 2 heures.
Ouais, je pense qu'il y a des arnaques aussi. Ben, pas des arnaques, mais des deals que tu peux avoir un billet électronique. Ouais. À l'époque, moi, il y avait moins d'Internet où c'était pas aussi développé en 2007. Fait que je l'ai fait, j'attends avec ma partenaire de voyage. En 2013, je l'ai refait parce que j'étais allé passer une semaine avec ma blonde, son neveu puis son père. Puis l'autre semaine d'après, je suis resté chez Cyril. Fait qu'avec ma blonde puis sa famille, on a fait le parcours officiel.
Okay.
Puis en 2016, quand je suis revenu avec ma femme, elle non plus, elle l'avait pas fait. Fait qu'on a fait le parcours officiel, mais on a fait aussi 3 autres descentes illégales avec Cyril puis d'autres amis australiens. Puis fait que oui, Paris 2013, ça m'a vraiment ouvert comme les portes de « Oh! » Une série de premières. Les premiers souterrains à l'étranger, premier squat dans des buildings abandonnés, gros industriels en Belgique, des aciéries, des hauts fourneaux, squatter dans des places abandonnées aussi pendant 3 jours d'affilée. J'avais jamais fait ça avant. Fait que ça a brisé la glace pour beaucoup de choses. Puis après, c'est ça, ça s'ensuit une série de voyages à chaque année. 2015, Italie, je suis allé voir les rivières perdues à Brescia, encore une fois, gracieuseté des contacts de Daniel. 2016, j'ai été invité en Angleterre pour un gros party annuel de Drainers qui se fait en Europe. Je ne vais pas donner trop de détails, mais c'est dans une ville différente à chaque année en Europe. Puis les Drainers du monde entier se rassemblent là, puis font un gros party pendant une fin de semaine. Fait que j'ai été invité, j'ai eu l'occasion de passer, en fond, une semaine en Angleterre, à faire des drains dans tout le pays, de Manchester à Londres, en passant par Derby, Birmingham, nommé-les, là. Puis ensuite, retour à Paris. Donc, beaucoup de va-et-vient. En Autriche, même chose. Une coupe de drains à Vienne, à Graz, en Autriche. Super beau drain, avec l'électricité dedans, les lumières.
OK. Je vais
vous montrer des photos sur ton émission. Ensuite, en Slovénie. Ma femme est originaire de Slovénie, donc on a fait aussi une coupe d'explo à travers des voyages, mais principalement des fortifications.
Okay.
Super intéressante histoire d'une genre de ligne Maginot slovène qui a été construite à l'entre-deux guerres. Après la Première Guerre mondiale, l'Italie occupait une partie du territoire slovène, qui était yougoslave à l'époque. Puis elle a reperdu ce territoire-là à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Fait que c'est une partie de territoire où est-ce qu'il y a des fortifications italiennes, puis slovènes,
okay.
mais incomplètes. Ils n'ont jamais servi parce que le Blitzkrieg est arrivé avant que les Slovènes puissent finir leurs fortifications. Fait que, il y a beaucoup d'ouvrages que tu peux explorer, des bunkers abandonnés, tout ça. J'ai fait un drain à Ljubljana, mais je me suis disloqué l'épaule. Fait que, on n'en parlera pas. On
ne passera pas à l'histoire.
Non, mais j'ai pris des belles photos, par exemple, dans ce drain-là. Oh my God. Puis, c'est ça. Ensuite, mon Dieu, j'oublie des pays. France, Belgique, Italie, Autriche.
Mettons qu'on parle de l'Australie. Dans
ouais, t'as l'air intéressé à l'Australie.
Ben, en fait, on en a parlé un peu. Fait que, il y a déjà des questions qui me viennent en tête quand on parle de ce genre de sujet-là. Bon, premièrement, tantôt, tu me disais qu'à Montréal, tu sais, quand tu descends dans un égout ou quoi que ce soit, c'est trop humide pour dormir là. Mais quand tu explores dans ces pays-là, quand tu sors du Canada pour aller explorer, tu squattes ces endroits-là, tu dors directement sous terre.
Pas toujours propice, mais oui, ça peut arriver. Puis c'est, d'ailleurs, dans mon cas, c'est arrivé en Australie.
Tu y avais rencontré quelqu'un que tu parlais un peu tantôt, qui se promène un peu à travers le monde, qui en a fait son mode de vie. Puis qui finit par squatter ce genre d'endroit-là.
Ouais, ben, c'est une longue histoire, mais en fait, l'Australie, c'est un pays où est-ce qu'il pleut pas beaucoup, mais quand il pleut, il pleut.
Ouais.
Ça s'inonde vite. Fait que, ils ont des énormes drains en béton pour la plupart. J'ai vu quelques drains en briques, mais la plupart du temps sont en béton, mais énormes, avec juste un petit pipi d'eau dans le milieu.
Ouais.
Mais quand tu es dans la saison de la pluie, par exemple, là, ça se remplit. Ouais. Puis il y a eu des morts. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont noyés.
Qui avaient eu il y a quelques années.
Presque chaque année. Souvent, c'est des gens qui font des graffitis qui ne sont pas trop au courant des dangers. Mais c'est arrivé une couple de fois. Puis, bref, en 1986, s'est fondé le Cave Clan. Qui étaient des gens qui, avant l'Internet, qui exploraient déjà ces drains-là, puis qui faisaient des graffitis, mais pas des graffitis, mais qui laissaient un guestbook écrit sur le mur de béton, puis tu pouvais écrire ton nom, la date qui était passée, puis qui faisaient aussi des... ils découvraient des drains, puis après, ils laissaient des photos dans un Ziploc sur le mur du drain avec « Écrivez-nous à telle adresse », puis il y avait un petit un fanzine.
OK, oui, un fanzine, oui.
Ouais, qui imprimait eux autres mêmes, puis que ça a roulé pendant des années jusqu'à ce que l'Internet arrive avec les forums, puis là, UER, en tout cas, à un moment donné, ça s'est tout amalgamé, puis là, tout le monde s'est connu, mais le Cave Clan, ce qu'ils ont de précurseur, c'est que je pense que ça a été les premiers à faire des gros parties dans les drains. Ça a été repris puis amélioré par l'équipe d'Europe par après, là. Mais le Cave Clan, c'est comme les OG.
Fait que carrément, il y a des parties qui s'organisent là-dedans, puis on parle de combien de personnes?
200-300 personnes.
200-300 personnes.
Peut-être plus des fois. Là.
Fait que ça se fait dans des salles de rétention plutôt?
Ou, hein? dans les tunnels, des fois dans des bunkers. Moi, le premier que j'ai participé à Manchester, c'était dans une rivière souterraine, dans un parc. Fait que c'est une section de la rivière qui était canalisée sous terre, mais qui était... Je te parle d'un gros tunnel en demi-lune en pierre avec des trottoirs de chaque côté.
OK.
3 mètres de large, fait que tu avais de l'espace. Là. Il y a une table de poule, un jeu d'or, un DJ, un bar.
OK.
C'est ça que je te dis, tu sais, ces gens-là se connaissent tous. Ils vont tous au party de l'autre. Fait qu'à chaque année, il y a une rotation durant l'année que, bon, en juillet, c'est en Europe, en mars, c'est en Australie.
Un genre de world tour.
Là. Ouais. Puis en janvier, c'est aux États-Unis. Fait que tu sais, il y a comme une rotation, puis les gens, ben, ils veulent pas, ils lèvent la barre pour l'autre, hein, fait qu'ils s'inspirent tous l'un de l'autre. Puis moi, tout ce que je peux témoigner de mon historique, c'est que à l'été 2016, à Manchester, il y avait un bar avec des beer kegs.
Okay.
En janvier 2017, aux États-Unis, le party, ils ont fait un casino, un speakeasy, dans une autre rivière souterraine avec une genre de... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme un quai avec un sous-bassement de bâtiment.
Okay.
Avec des piliers. Puis que c'était juste comme en terre, jusqu'au mur de fondation, couvert en béton. Puis t'avais moyen de prendre l'électricité du building de l'autre bord. Aujourd'hui, ils ont tout fermé ça avec des murs de blocs, mais parce qu'ils ont, la ville a finalement trouvé des restants du casino, tout ça. Mais en tout cas. Fait qu'on se rendait là à bateau. À partir d'un parc, tu rentres par la sortie du drain, si on veut. Puis là, c'était un convoi de 12 bateaux qui faisait juste lifter les 150, 200, pour combien qu'on était invités. Là, toutes sur leur 36, hein, c'est aussi un très important. Tu t'habilles veston, cravate, tuxedo pour aller dans ton drain, dans ton party de drain.
Okay. C'est
faire le contraste. Fait que cette année-là, le Speakeasy, il y avait un bar, parce qu'il y avait un bar l'année d'avant à Manchester. Fait que tout le monde se lève.
Le temps de monter.
Ouais, ouais.
OK.
Fait que c'est les premières versions plus DIY puis plus moins grande attendance. Oui, c'était vraiment dans des drains avec des chest waders. À un moment donné, pour des questions de logistique puis de fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se pointent à ces événements-là, tout le temps dans des endroits où est-ce qu'il y avait une option sèche. À Vienne, en 2018, c'était dans un bassin de rétention en dessous d'un terrain de football.
OK.
Flambant neuf. Venait d'être construit, tout beau, tout sandblasté en beau béton. La semaine du party, il y a eu un refoulement d'égouts, c'est rempli de marbre. Fait que les gars ont passé 3 jours à balayer, oser, nettoyer avec la hose, tout en remettre ça propre.
Puis, question quiz, là, on parle qu'il y a des communautés qui sont installées un peu partout à travers le monde. Est-ce qu'à Montréal, il y a une communauté ou on parle juste de quelques individus? Tu sais, c'est-tu une communauté par rapport à l'exploration, il y a beaucoup de gens qui en font. C'est sûr que quand tu es rendu vers des trucs très pointus comme des drains, c'est beaucoup plus petit. Mais
ouais.
Est-ce qu'il y a une communauté ou c'est vraiment plus des gens qui vont se retrouver un peu aux quatre coins de la province ou du pays?
À Montréal, les drainers, c'était pas mal. Daniel, moi, tu sais, Guillaume qui venait une fois de temps en temps si ça y a donné, mais il n'y a pas de party juste pour les drains. Je peux pas parler pour les, admettons, la communauté d'explorateurs urbains. Je suis sûr qu'il y a des événements qui se font à Montréal aussi, mais ouais. En termes de drainer, c'est plus nous qui allons aux États-Unis, en Europe, en Australie.
Fait que dans le fond, on parle plus d'une communauté qui est plutôt mondiale.
Ouais. C'est international.
International. Ouais,
ouais. D'ailleurs, le party de drain s'appelle comme ça, International Drain.
OK.
Puis, c'est des gens qui, c'est ça, qui sont, c'est un gros système de Airbnb mondial, si on veut. Parce que je te donne par exemple, la première fois que je suis allé en Italie, c'est Daniel qui m'a dit va voir les gars de Brescia Underground, donne un contact. Bon, tu peux aller dormir sur leur divan.
Tu fais du couchsurfing à gauche. Couchsurfing
pour gratuit, ça te sauve sur l'hôtel, ouais. Un peu la bouffe. C'est
une façon de voyager
cheap.
À faible coût.
Oui. Ouais. Ouais. Puis c'est ça. Donc, c'était. Pour Montréal, on allait plutôt vers les parties de drain parce qu'on n'était pas capable d'organiser. On n'a pas une assez grosse communauté pour organiser ce genre d'événement-là ici. Puis aussi, les endroits sont pas propices. On des égouts sanitaires. Tu veux pas vraiment aller boire de la bière dans un égout ou manger dans un égout. C'est des risques de contamination. C'est moins propice. Mais n'empêche qu'on a déjà fait un banquet dans un drain ici. Une fois avec une couple d'invités, c'était pas un drain sanitaire, mais on a tenté une couple de petits événements là, à plus restreindre.
T'sais. OK.